Y a des goûts qui viennent, d'autres qui s'en vont. Heureusement qu'il y a des choses qui ne changent pas. Comme le goût d'une bonne barmasse. En fresque, au travail, au repos et dans les loisirs.
Les goûts peuvent changer.
Waouh, 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 une publicité. On va faire un petit changement d'horaire.
Ouais.
On va commencer par un bout de, un bout de ta chronique.
D'accord, d'accord.
Serge, on vient d'entendre une publicité de Mars.
Oui, avec tablette Mars. C'est ça, c'est que c'est des publicités que j'ai trouvées, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des... Parce qu'il y a deux, trois semaines, j'ai parlé de la disparition du, de la Cherry Blossom.
Bon, puis moi, je vais le dire, tandis qu'elle n'est pas en onde, puis elle ne nous entend pas.
C'est vraiment pas bon.
Je sais qu'Hélène, elle aime ça. Là. Si jamais vous lui répétez ça, là... Ah, y a rien, c'est juste entre nous et les milliers de personnes qui nous écoutent.
Juré craché, on l'a... Non, en tout cas, j'en parle pas. Samuel, je sais pas, là, mais moi, j'en parle pas.
Donc, on... mais Mars? Mars?
Ouais. Oui, ben il y a plusieurs... c'est un article qu'on a fait, un article dans la presse plus de Lila Dussault. C'est qu'on a demandé au public, aux lecteurs de la presse, parlez-nous des tablettes qui vous manquent, des chocolats qui vous manquent, qu'on ne peut plus trouver ou qui sont difficiles à trouver. Alors, il y a 250 personnes qui ont répondu. Et c'est le résumé de ces commentaires-là que je vais vous lire. Alors, c'est... Elle nous dit au sujet de la caravane. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la tablette caravane.
Oui, oui, oui. Ça fait longtemps.
Comme ça, là, voyez-vous. C'est
mais
là...
oui.
Oui, oui, oui. Oui.
Un autre affaire que je n'aimais pas beaucoup.
Oui. Ben, c'est...
Je ne suis pas très fort sur les affaires gluantes. Là.
Ouais,
je pense qu'il y a du jus de je ne sais pas quoi là-dedans. Là.
Dans la caravane?
Caramel.
Oui, oui, oui. C'est très sucré, en tout cas. On s'entend que c'est super sucré.
Ouais.
Quand on est jeune, à ça, moi, je ne serais plus capable maintenant de manger ça.
Ah, moi non plus.
Ça me tombe sur le...
ça me tombe pas sur le cœur. C'est parce que quand je me réveille la nuit avec des reflux gastriques épouvantables.
Ouais,
qu'on
ben, c'est ça, ouais. Alors... J'en salive encore. J'ai le cœur brisé depuis la disparition de cette barre chocolatée.
Ah bon?
Un souvenir délicieux jamais oublié? Vous avez été plus de 80 à nous exprimer votre amour de cette barre de caramel crémeux recouvert de chocolat, produit à l'époque par Launay. Oui, la même entreprise qui produisait aussi la Cherry Blossom. L'amalgame de toutes ces saveurs ravissait mes papilles, s'émeut Hélène Herholz. La caravane a fait partie de mon enfance, durant les téléromans, les beaux dimanches, dans la cour d'école, se souvient Sylvain Lefebvre. La crème à l'intérieur et son goût ne ressemblaient à aucune autre friandise, renchérit André. Isabelle Leroy, elle, dégustait ses caravanes en compagnie de son grand-père et Louise Farah Lajoie avec sa grand-mère. Pour Joël Bellemare, comme pour Jacques Tremblay, la barre de chocolat est associée à la route des vacances et du chalet. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à considérer la caravane comme irremplaçable. En 2016, une pétition lancée sur Change.org a réclamé la remise en marché de la friandise, ou du moins la diffusion de la recette originale. Elle a obtenu près de 300 signatures, mais sans succès, ce n'est pas revenu. On n'a pas la recette. Vous êtes aussi nombreux à vous ennuyer d'autres barres chocolatées qu'on ne retrouve plus sur les étalages. La barre Six de Cadbury, comme la Kit Kat, mais meilleure, selon ce que les gens nous ont écrit, a été mentionnée 27 fois.
Ah.
La Kit Kat, oui. La barre Six de Cadbury.
La barre Six, ouais. Je ne me rappelle pas de celle-là.
Ouais. Moi non plus. La Kit Kat, je me rappelle, mais la barre Six de Cadbury...
La Kit Kat, il y en a encore, j'en ai vu.
Oui, oui. Ah, oui,
okay. À l'épicerie, on les voit. Là,
oui,
les... Il y a toujours les étalages de bonbons, parce que quand on attend en ligne, c'est pour en vendre aux
les
enfants.
Les bonbons sont là.
Oui.
Les chocolats sont là, les bonbons. Oui. La Jersey Milk Treasure de Nielsen.
Oh,
Jersey Milk, moi, c'était quelque chose que
oui,
qu'on mangeait.
Je l'aimais, celle-là,
j'achetais, oui.
Oui.
Elle a reçu, mais là, on parle de la Milk Treasures de Nielsen. Là, je ne sais pas si c'est la même que la Milk Jersey Milk que je mangeais, là, moi. En tout cas, elle a reçu 12 mentions. Vous vous ennuyez aussi notamment de la Wigwag de McIntosh. Je ne la connais pas.
Moi non plus.
Des snack bars de Cadbury.
Ah, oui. Oui, oui, oui.
Et de la Malted Milk de Nielsen. Malted Milk, oui, je me rappelle.
Ouais, je pense que j'aimais pas ça.
La Treasures, c'était unique au monde, comme une boîte de chocolat de nos grands-mères. Chaque petit carré, orné d'un signe mystérieux, contenait une saveur crème vanille, cerise, orange. Nous a écrit Marie-Josée Saint-Laurent. Les machines distributrices à mon école secondaire vendaient les bars combien au début des années 70?
Ah, attends un petit peu. Je pense que c'était 10 cents.
Exactement, vous avez raison. 10 cents.
Ouais.
Et un peu plus tard, Révolution, la tablette à 15 cents annoncée partout à la télévision, se souvient Michel Dandurand.
Oui, tu te rappelles, avec papa me donnait 25 cents et je m'achetais une tablette de chocolat, un sac de chips et une petite bouteille de Coca-Cola.
Ah oui.
25 cents.
Ah oui, 25 sous. Ben, moi, quand j'allais glisser en train de sauvage avec mes amis des années 60, 25 cents, c'était, t'avais un hot dog, une frite et un café.
Ah, tu prenais du café?
Ou un coke, je pense. C'est un coke qu'on prenait pour se réchauffer.
Oui. Oh, ça réchauffait.
On glissait dans Côte à Vio, ce moment-là.
Écoute, il y a tellement de sucre là-dedans que ça faisait brûler bien des calories.
Oui. Maintenant, un beau souvenir.
Oui.
Les bonbons de dépanneur.
Ah oui.
Ah. Viennent ensuite tous les bonbons vendus à l'unité au dépanneur, avec en tête de file les lunes de miel. Mais celles d'antan, là, hein, préparez-vous, plus celles qu'on fait aujourd'hui, nommées 24 fois. Cette petite pièce de chocolat avec caramel dur à l'intérieur fait carrément partie de mon enfance et je n'ai jamais oublié son goût, confie Jacques Lagueux. Ça goûtait le ciel, s'extasie Anne-Marie. Ma grand-mère en avait toujours dans sa dépense. De véritables télétransporteurs au pays des bonbons merveilleux, ajoute Sylvie Brière. Avis aux amateurs, les lunes de miel modernes existent toujours. On en trouve où? Risqueriez-vous un endroit? Pas loin de chez vous, pas loin de chez toi, je pense.
Oui.
Sur Ontario.
Ah.
Bon, c'est à l'endroit, là, le magasin commence par un O, S,
je pourrais pas
C, dire. Oscar. A, R, Oscar.
Oscar.
Comment ça?
Ontario, c'est un petit bout de chez moi.
Oui. Ah, OK, OK. Ouais. C'est sur Ontario, pas loin de Bourbonnière.
Mais là, je pense que je vais y aller.
Ah non, mais là, tu rentres là, c'est un... Ah, tu deviens fou, là. Non, mais t'as tous les bonbons, les chocolats, les biscuits en vrac, tout ça, là. Il y en avait plusieurs à Montréal avant. Mm. Il reste celui-là sur Ontario. Je pense qu'il en reste un autre sur Saint-Hubert. Mais je suis pas sûr.
Ah, j'ai une blague.
Oui.
C'est un petit gars qui va au magasin, qui vend des bonbons. Mm-hmm. Puis il demande, je prendrais 5 cents de petits bonbons là en haut. Ça fait que la madame sort l'escabeau, va chercher, puis donne 5 cents de bonbons. Elle remet tout ça. L'autre petit garçon qui arrive au bout de 2 minutes demande la même chose. Elle remonte, elle serre, elle remonte, elle place. Fait que rendu au troisième, elle dit... Elle va tout de suite chercher. Puis à la porte, je suppose que tu veux 5 cents de bonbons de cette bonbon-là. Non, je ne pas ça que je veux. Fait qu'elle reporte. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux? J'en prendrai pour 10 cents.
Oh, méchant enfant. Bon. Alors, on les retrouve notamment chez Oscar, mais aussi un endroit que je ne connais pas, la Commère Magasin Général. Alors, je ne sais pas du tout
quel beau nom!
De où ce que c'est, la Commère Magasin Général.
Oui.
Vous vous souvenez aussi, avec nostalgie, des boules noires,
oui.
Des petits outils,
oui.
Des pintes de lait,
oui.
Et autres boules de coco ou au thé des bois. Sans oublier les réglisses plates à saveur de menthe, de fraises ou de raisin, en lanière à tresser, noire avec des petits bonbons rouges et les gommes à mâcher, Mojo Black Cat Cobble gomme Bazooka avec des bandes dessinées à l'intérieur. La Bazooka, je la trouve chez Oscar, moi je m'en achète.
Ah! Puis il y avait les petits bonhommes, là, tu mettais des bonbons, puis là tu faisais ouvrir la bouche, puis là, petits bonbons. Je ne me rappelle plus le nom de ça, oui.
Le rituel consistant à aller au dépanneur choisir avec soin ses sucreries ajoute un parfum d'autrefois pour beaucoup d'entre vous. Et Mélanie Cochon dit « Nous revenions à la maison avec notre petit sac en papier brun rempli. Quelle patience et quelle gentillesse de ce bon monsieur Beaulieu qui détenait le magasin à bonbons.
Mmh. »
Les petits gâteaux Vachon et autres biscuits d'ici. Les marques d'ici ne sont pas en reste dans vos mémoires. Plusieurs gâteaux Vachon disparu à tise de votre mélancolie, particulièrement les doigts de dame.
Ah, oui, je me rappelle de ça.
Oui, nommé 8 fois dans les réponses. Quel plaisir en bouche de déguster les 2 doigts de dame de l'emballage individuel. Et que dire de ce coulis aux fraises qui rendait le tout si délicieux. S'enthousiasme Sylvain Matt. Vous vous ennuyez aussi des gâteaux Vachon Miami et Pic, je me souviens pas.
Moi non plus.
Des roulés suisses à l'époque de ce soir, oui, maman rien des roulés suisses. Des gâteaux et biscuits Vio, des biscuits de M. Christie disparus, et d'une marque de biscuits locaux, le pain des anges, qu'on retrouvait encore récemment dans les biscuits Oscar. Moi, ça, je ne me souviens pas de celui-là, pain des anges. Mais allez faire un tour chez Oscar, vous allez voir, il y a des choses, tu dis, ah, mon Dieu, oui, je me souviens de ça. Tu sais, ça qu'on ne voit plus du tout.
Mon Dieu, je vais faire, comment on appelle ça, une overdose de sucre. Hein?
Alors, surprise. Celle-là est spéciale. Vous avez été plusieurs à inclure les croustilles dans vos histoires gourmandes. Parfois, en accompagnant des barres de chocolat, quand on envoyait le commentaire. Parfois, avec des anecdotes inattendues, comme ces chips, tenez-vous bien, à saveur de fruits de la marque Hostess, apparu et disparu aussi rapidement dans les années 1970. Serge Landry nous dit, « Même petit cul, j'ai jamais pu terminer mon sac à saveur de raisin. » J'imagine, là, ça doit être bizarre, tu sais.
Je pense que c'était spécial pour femmes enceintes qui ont des goûts bizarres.
Oh, mon Dieu, oui. D'autres se souviennent de ces croustilles écrasées, vendues en sac au dépanneur. Ça, oui, je me rappelle. Il y avait aussi les hosties qu'on peut acheter au presbytère.
Oui, les retailles
d'hosties. Oui. J'étais jeune, haut comme toi, pomme, et je trouvais ces chips super bonnes, raconte Jean Lorrain. D'autres encore se rappellent les patates Fiesta, livrées directement à la maison dans des boîtes en métal. Ah oui, je me rappelle, c'est chez nous, on achetait ça. La grosse boîte en métal, là. On avait ça. On avait des chips pour un bon bout de temps. Ben, ça ne durait pas si longtemps que ça. En tout cas.
Ben là, j'ai ça de voir devant moi, avec ton air coquin. Ah, puis tu fais quelque chose, toi.
Oui. Impossible de lister toutes vos friandises, chérie. Des inclassables, les sacs à jus mini-sip des dépanneurs Perrette, les crèmes glacées Buried Treasure de Hood, je ne connais pas, aux traditionnels, les vrais tirs Sainte-Catherine.
Oui.
Les cerises enrobées de chocolat de Launay, les chocolats à la menthe Pep de Cadbury, en passant par les boissons Pure Spring et Grappette. Grappette, je me rappelle. Mm-hmm. L'étendue de vos nostalgies se déploie en un long fleuve délectable, mais comme le relativise Julie Lefebvre, c'est correct. C'était plein de chimiques et de sucre. On aimait ça.
De toute façon, on dit que la mémoire olfactive, c'est la meilleure mémoire, mais je commence à me demander si la mémoire gustative ne serait pas aussi bonne. Alors, on a entendu une publicité tantôt des bars Mars. Elles existent encore. Et là, on en a une autre à vous faire entendre.
Paul, donne donc un morceau de ta barcisse à ce petit garçon. Regarde, il se meurt d'envie.
Voyons, Paul, fais pas le fou, mangez tous les six. Fais ce que je te dis.
Paul, partage ta barcisse. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Écoute, Paul, prive-toi pas. Tu les aimes tant, ces petites gaufrettes à la crème de noisette enrobées de bon chocolat au lait.
Paul, partage.
Bon, alors, ça, faut décrire cette
oui,
publicité.
C'est le comédien Guy Lécuyer
qui,
je ne sais pas si ça dit quelque chose. Pour certaines personnes, ça va donner... ils vont voir une image. Là. Mais c'est qu'il est assis et il déguste sa barre. Et là, il y a un petit garçon qui aimerait ça en avoir. Puis là, vous avez son ange.
Sa
bonne conscience, sa mauvaise conscience de l'autre côté, le diable. Puis la bonne conscience, il dit, donne-lui donc un morceau. La mauvaise conscience, non, garde-la pour toi. Ta, 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 ta. Et il finit par en donner au petit gars-là.
Ben oui, ça va toujours finir par bien finir. Ouais. On va continuer ça un petit peu plus tard. On s'en va en musique. Alors là, on va parler de phobie. On a peur de quoi? De tout et de rien?
Oui, bien, vous savez, il y a des phobies qui sont très répandues, d'autres qui sont moins répandues. Là, je vous parle de celles qui sont le plus répandues.
Oui.
C'est un article de Chloé Ronchin que j'ai trouvé sur CNews.
CNews?
CNews.
Ah oui, ça, c'est la chaîne d'extrême droite en France.
Hein? Ah, mon Dieu. Ouais. Ah, oui. Hein?
Ça, ben oui. C'est, ah, là, où, c'est là où travaille Mathieu Bock-Côté. Ça explique cela. Oui, c'est la chaîne de droite. Mais c'est pas grave, ils peuvent avoir des choses intéressantes à dire.
Oui. Je connaissais pas du tout, j'ai vu CNews, mais je pensais, moi, que c'était...
Il y a un journal qui s'appelle CNews, mais fait partie de cette chaîne.
Alors, peur incontrôlable de l'avion, de la foule, des araignées, des espaces clos, de conduire, de tomber malade. Il existe un grand nombre de phobies dans le monde. Mais certaines sont plus répandues que d'autres, et voici lesquelles.
OK, allons-y.
La phobie sociale.
Oui.
Qu'est-ce qu'on vous la définiriez?
L'agoraphobie? Non?
Non, c'est d'autres choses.
OK.
Ouais. Ouais, la peur du monde.
Ouais, ça s'appelle quoi, ça, cette phobie sociale? Je ne sais pas.
Selon une enquête de l'association Anxiety UK, Grande-Bretagne, UK, c'est la phobie sociale qui arrive en tête de classement de toutes les phobies. Également appelé anxiété sociale, ce trouble se caractérise par une peur intense d'être confronté à des situations d'interaction sociale. Alors, l'individu est particulièrement angoissé à l'idée de parler en public. Il craint d'être observé attentivement, d'être mal jugé, voire humilié. On pourrait peut-être mettre ça avec le trac, peut-être, pour un comédien ou quelqu'un qui a...
Oui, mais le trac, c'est sain. L'anxiété sociale, c'est autre chose.
Grave. Oui. Ensuite, l'agoraphobie.
Ah, oui.
Ça, c'est... Comment... C'est quoi l'agoraphobie?
La peur des foules, non? C'est pas ça?
La peur des foules, hein?
Oui. À deuxième place, on retrouve l'agoraphobie ou la peur irraisonnée des espaces publics au sein desquels il est difficile de s'échapper ou de trouver de l'aide en cas de crise, de panique ou autre problème nécessitant l'intervention des secours. Donc, il y a du monde, tout ça, puis vous êtes dans un espace et là, vous avez peur.
Mais tu sais, lorsque j'étais journaliste à la télévision, souvent, on est appelé à couvrir des événements. Il y a beaucoup de monde.
Ouais.
Moi, je me rappelle du printemps érable. Et les journalistes, on se faisait agresser. Puis il y avait des moments où on se retrouvait dans des situations difficiles. Alors moi, c'est de toute façon, quand on nous forme à faire ce genre d'événements-là, parce que j'ai couvert beaucoup de manifestations, j'ai voyagé dans le monde, on nous apprenait à toujours regarder, au moins trouver deux issues de secours, de sortie dans ces événements-là. Pour être certain, puis de partir avec le caméraman, évidemment. De toute façon, on était attaché à lui. Dans le temps, il n'y avait pas de micro sensible. Souvent, on était prêt avec le fil. Alors, c'est ça. Alors, l'agoraphobie.
Alors, les lieux les plus redoutés par les agoraphobes sont les centres commerciaux, les transports en commun, mais aussi les endroits clos, tels les ascenseurs et les avions.
OK.
Bon, maintenant, ça va se corser un peu parce que les appellations, là, j'ai pas entendu parler de ça. Qu'est-ce que l'hémétophobie? E-M-E-T-O-P-H-O-B-I-E.
Oh boy.
L'hémétophobie.
Est-ce que c'est pas la peur du sang?
Non, ça n'a rien à voir.
Non. Alors, moi, je donne ma langue au chat. Miaou.
Notre podium est complété par l'hématophobie, la peur de vomir.
Ah, ben oui.
Ou de voir une autre personne rejeter par la bouche son repas. Les personnes concernées écartent de nombreux aliments par peur d'être malades, ce qui peut provoquer un amaigrissement important. Certaines ont également peur de tomber enceinte par crainte d'être victime de nausées pendant la grossesse. Ils ne veulent pas tomber enceinte parce qu'ils ont peur d'avoir des nausées durant la grossesse.
Oui, mais c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir la nausée, franchement.
Apparemment, oui.
Moi, je me suis tapé une gastro il y a quelques semaines, puis c'est pas agréable.
Ensuite, ne laissez-vous pas confondre par le titre là, de l'autre peur, l'érotophobie. Ça n'a rien à voir avec l'Europe.
L'érotophobie.
Oui.
Quelle bonne question.
Oui.
Moi, encore une fois, je vais donner ma langue au chat, Samuel.
Ah, pareil, là, je sais.
Oui, c'est ça. On ne peut vraiment pas douter. Il n'y a aucune piste qui vient quand on voit ce nom-là. Là. Sur la liste des phobies les plus courantes dans le monde, figure aussi l'érotophobie, qui désigne la peur obsédante de rougir en public.
Ah, misère.
Ouais. Les personnes touchées, majoritairement de nature timide, font alors en sorte d'éviter toute situation pouvant les mettre dans l'embarras. Alors, chez la plupart des sujets, avoir les joues qui rougissent est une véritable phobie, car cette réaction est synonyme de faiblesse, de perte de crédibilité ou encore de culpabilité. Dès quand on vous dit « avouez », c'est au poste de police. « Avouez, monsieur, avouez!
» Avouez que vous avez mis votre main dans le bol de biscuits.
Oui. Maintenant, l'amaxophobie. L'amaxophobie.
Il y a quelque chose de maximum là-dedans, du moins, non? Amaxo.
De nombreux individus sont également amaxophobes. Autrement dit, ils ont très peur de conduire un véhicule, quel qu'il soit. Dès que la clé est dans le contact, plusieurs symptômes peuvent se manifester. Tremblement, accélération du rythme cardiaque, vertige. Considérant que la voiture est un objet dangereux, ces personnes utilisent ainsi au maximum les transports en commun.
Ah oui.
C'est votre cas, là, vous êtes amaxophobe.
Moi, c'est pas quand moi je conduis, mais quand certaines personnes conduisent, j'ai très peur. C'est peut-être une autre phobie.
Oui. Alors, celle-là, c'est un peu plus... on l'entend. L'hypochondrie.
Ah, ben oui.
Ouais.
Hein, l'hypochondrie, Samuel, est-ce que t'en souffres, toi?
La peur de... Non,
la peur d'être malade.
Oui.
Ouais.
Non, très peu malade, donc.
C'est la sixième phobie la plus répandue, l'hypochondrie. Il s'agit d'une inquiétude obsessionnelle concernant la santé. Plus précisément, le sujet vit dans l'idée d'être atteint d'une maladie grave. D'autres personnes souffrent plus spécifiquement de nosophobie. Contrairement aux hypochondriaques, elles savent qu'elles sont en bonne santé, mais ont peur de contracter une maladie.
Ah!
À ce moment-là, vous êtes nosophobe.
J'avais déjà entendu aussi germophobe. Les gens... c'est plus anglophone comme terme, hein, germophobic. Mm. C'est les gens qui ont peur d'attraper des microbes des autres.
Mm. Ouais. Maintenant, l'aérophobie.
L'aérophobie.
Oui. Aéro.
Pour l'air.
Oui. L'aérophobie est la peur panique de l'air ou du vent, et donc de prendre l'avion et de voyager à bord de tout autre engin volant.
Incluant... Ou de sortir ces jours à Montréal avec la neige.
Incluant les ovnis.
Arrête.
Les individus touchés sont convaincus qu'ils vont mourir durant le trajet en raison de problèmes techniques. L'aérophobie est souvent associée à d'autres phobies, comme la peur de la hauteur, l'acrophobie, ou la peur des espaces fermés, la claustrophobie.
Mmh. Ah, les gens qui ont pris l'avion, là, qui, c'est l'avion de Delta qui s'est écrasé, viré sur le... qui s'est renversé. D'abord, il y avait une vidéo qui est sortie hier, là, mais ces gens-là doivent avoir des... Non, mais c'est assez spectaculaire.
Mais ça arrive, le monsieur, il interviewait le monsieur qui est à l'intérieur, il dit, écoute, c'est une fraction de seconde, hein? Ça se retourne, paf, là. T'es rendu la tête en bas, puis les pieds en l'air, là. Ça va tellement vite, là, tu sais.
C'est un avion bombardier. Alors, il y a des choses qui ont été dites. C'est un avion bombardier qui a été fabriqué ici. Et d'abord, on salue la résistance de l'appareil. Mm-hmm. C'était dans tous les forums de discussion. Et on salue surtout le personnel à bord.
Ouais. Mm-hmm.
Il y avait quand même deux agents de bord à bord. Et ils ont réussi à faire sortir tout le monde en sécurité. Il n'y a personne qui est mort. Alors, je le répète, les agents de bord ne sont pas juste là pour vous verser un café.
Non. Et aussi, ils ont été chanceux parce que les deux ailes se sont décrochées. Et dans les ailes, tu as l'essence.
Oui.
Alors, si les ailes n'étaient pas décrochées, il y aurait peut-être probablement...
Mais il y avait quand même un bon feu.
À l'arrière, oui.
Puis il faut dire qu'à l'atterrissage, souvent, les réservoirs sont plutôt vides.
Oui.
Allez, on continue les phobies.
Maintenant, l'arachnophobie.
Ah, ça, c'est la peur des araignées.
Exactement.
Samuel, j'aurais pu te laisser la chance de le dire.
Pas de problème.
Oui.
La peur des araignées, ou arachnophobie, n'arrive qu'en 8e position. La simple vue de cette bête, qu'elle soit toute petite, énorme, poilue ou non, peut induire l'apparition de nombreux symptômes. Une accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive, des vertiges, des vomissements, une paralysie ou, au contraire, un besoin de fuir, partir à courir. La victime va parfois surestimer le danger en imaginant, par exemple, que l'araignée va lui sauter dessus et se faufiler dans ses cheveux, aggravant ainsi la crise d'angoisse.
Oh là là là. Moi, je pensais qu'il y avait aussi des dangers pour les tables et les chaises, parce que les gens sautent sur les tables. Dans ce stade, il y avait cette belle araignée. Ça, c'est pas les... T'as pas fait ces épisodes-là?
Non, ça va, ouais. Ouais, c'est assez effrayant, là, tu sais.
Ouais.
En dernier, ici, le nom, vraiment, je sais pas si ça va vous faire... vous avoir une idée, là, mais la brontophobie.
La brontophobie,
ouais.
Brontosaure, non.
Ça n'a rien à voir avec les bronches.
Oui.
Alors, on peut également citer la brontophobie dans nos... elle est en 9e position. Un terme peu employé dans le langage courant, mais qui désigne une peur bien connue, celle de l'orage, du tonnerre et des éclairs.
Ah, mon chien souffre de ça.
Ah bon? Dans les cas les plus extrêmes, les individus consultent les bulletins météorologiques de manière obsessionnelle. Bien souvent... La brontophobie est liée à d'autres phobies, telles que la phonophobie, la crainte des sons forts, ou l'ombrophobie, la peur de la pluie. Il y a des peurs. Hein?
Ouais.
La dernière, bon, est facile.
Attends. Oui. OK, nous sommes des descendants de Gaulois, nous n'avons qu'une seule peur, c'est que quoi? Le ciel nous tombe sur la tête.
Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. La claustrophobie.
Ah, ça, on la connaît.
Facile.
Ouais.
La peur d'être enfermé.
Oui, c'est ça. C'est un trouble impliquant la peur de l'enfermement. Les personnes claustrophobes peuvent souffrir d'attaques de panique dans l'ascenseur, le métro, l'avion, mais aussi dans des petites pièces sans aération où le plafond est trop bas. Quand elles se trouvent dans ces lieux clos, elles sont effrayées à l'idée de manquer d'air et de ne pas pouvoir sortir. Moi, être dans une pièce où le plafond est trop bas, là, je ne suis pas confortable.
Écoute, je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, je me faisais intimider beaucoup. Et une des choses qu'on me faisait, c'est qu'on m'enfermait dans mon casier à l'école et on mettait le cadenas, on me laissait là pendant une heure de temps. Et j'avoue qu'encore à ce jour, à l'âge de 63 ans, j'aime pas beaucoup les portes fermées quand je suis quelque part. Ouais. Ça joue. Ce n'est pas maladif, là, mais ça joue. C'est... Ah oui, des fois, je me retrouve dans des pièges. Ah, il me semble qu'il manque d'air, il faut ouvrir la porte. Ouais. Puis je ne m'en rends pas compte, hein, je vais ouvrir les fenêtres, la porte.
Ouais. La dernière, l'acrophobie.
L'acrophobie.
Mm-hmm. L'acrophobie.
La peur des acrobates, non?
Ben, ça serait... Ben, il y aurait un lien.
Samuel a peut-être quelque chose à ajouter.
Ah, la peur des acrobaties, alors?
Non, mais il n'y aurait pas loin. Vous êtes sur une piste. Ne proposez pas à une personne acrophobe de monter au sommet de la Tour Eiffel.
Ah.
Ou bien une balade le long des falaises.
Donc, c'est la peur des hauteurs.
Oui. Ouais. Vous l'avez compris, l'acrophobie désigne la peur de la hauteur et du vide. Ce mot vient du grec « acron », qui signifie « pic » ou « sommet ». Entre 3 et 6 % de la population serait confrontée à cette angoisse.
Ah ben.
Ouais. Alors, messieurs, soyez honnêtes. Vous souffrez de quoi? Ben, après tout ce qu'on vient de dire.
Ben moi, je peux dire que j'ai un petit problème d'agoraphobie et de claustrophobie, j'avoue.
Ouais.
Mais les araignées, non. Mmh. Non, les araignées, je vais vous faire rire. Moi, quand il y en a dans ma maison, parce que j'habite, comme on appelle ça un rez-de-jardin, c'est un sous-sol, là. Puis, on en a des araignées. Alors, je les ramasse quand je les vois, puis je les envoie dehors. Je les ramasse avant que le chien les ramasse. Parce que lui, s'il trouve une araignée, final bâton, l'araignée va mourir dans son estomac.
La pauvre araignée.
Et toi, Samuel?
Non, rien de spécial. Peut-être arachnophobie, mais je pense pas qu'on puisse parler de phobie, parce que c'est surtout les grosses.
Ouais, puis, il n'y en a pas beaucoup ici.
Voilà. Non.
Donc, plutôt.
Mais qu'on voit ça dans des pays, dans le sud surtout.
Oui,
là.
Oui.
Une grosse bébite, là, comme ça, là, qui.
Oh. Ah, moi, c'est les gros cafards. Puis tu te réveilles dans la nuit, là, au Mexique, ça m'est arrivé. Tu te réveilles dans la nuit, puis tu vois pas ce que tu fais, puis tu marches. Puis ça fait crunch en dessous de tes pieds. Bon, allez, on va aller en musique, je pense, ça va vous faire du bien. Une chance qu'on t'a, Serge.
Wow!
Ah, c'est gentil, hein?
C'est fin.
Attends, le pot s'en vient. Bon, OK, on arrête ça. On va aller dans des brèves. On va parler de patates.
Oui, le triomphe de la pomme de terre, c'est un article que j'ai trouvé dans une revue Histoire et civilisation du National Geographic, mon cher.
Ah oui.
Alors, le triomphe de la pomme de terre. Cela fait 10 000 ans que les humains mangent des pommes de terre. Vers 8 000 ans avant Jésus-Christ, en même temps qu'ils se sédentarisent et adoptent l'agriculture, les paysans de la cordillère des Andes se mettent en effet à cultiver ce curieux tubercule. Faut pas oublier la pomme de terre, hein, ça vient d'Amérique du Sud. Quand les Espagnols parviennent dans l'actuel Pérou, il est, avec le maïs, l'un des aliments de base de l'Empire Inca. Dès la fin du 16e siècle, la pomme de terre a gagné les côtes ibériques avant de se répandre dans toute l'Europe. Néanmoins, pendant longtemps, on considère en Europe que la pomme de terre est impropre à la consommation humaine. Tout au long du 17e siècle, donc les années 1600, si on la cultive, c'est uniquement pour nourrir les animaux. Les choses changent au siècle suivant. Facile à pousser et à conserver, la pomme de terre apparaît alors comme un aliment miracle qui pourrait mettre fin aux famines qui sévissaient régulièrement dans ces temps-là. Néanmoins, une certaine méfiance se maintient et celle-ci est relancée par quelques épidémies dont on accuse la pomme de terre d'être responsable. En France, c'est finalement le pharmacien et agronome Parmentier...
Ah, ça nous explique quelque chose, hein?
Oui, ouais. Qui parvient à la fin du 18e siècle à convaincre des bienfaits nutritifs de la pomme de terre. Celle-ci devient progressivement un aliment central du régime des Européens, et au 19e siècle, son succès vient de ce qu'elle apporte pour un coût modique, les calories nécessaires aux travailleurs de la révolution industrielle. Mmh. Les gens se nourrissaient de pommes de terre carrément. En 1844, les cultures de pommes de terre sont pourtant frappées par une maladie nouvelle, et en Irlande, c'est l'origine d'une famille épouvantable qui pousse au départ vers l'Amérique des millions de paysans. Cela ne fait pourtant que ralentir l'essor de la pomme de terre. Dans les décennies qui suivent, des variétés résistantes sont mises au point, et au cours des 19e et 20e siècles, la culture de la pomme de terre se diffuse sur toute la planète. Et aujourd'hui, les industries agroalimentaires s'en sont largement emparées. Chips, les purées en sachet ou les frites surgelées se sont répandues dans bien des cuisines à travers le monde pour le bon plaisir de tout le monde.
Dans l'histoire plus récente, la Deuxième Guerre mondiale, on se rappellera que les Néerlandais, les Pays-Bas, les gens ont pu se nourrir grâce à la pomme de terre.
Ouais.
Et les Irlandais, Mm-hmm. Hein, c'est quand même... c'est des choses hein, qu'on se rappelle pas. Puis c'est, au Canada, on en produit. Puis des pommes de terre, ça dure tout l'hiver. Là. Ce qu'on achète à l'épicerie, c'est des pommes de terre qu'on garde au frais et qui ont été cultivées pendant l'automne. Hein. Une autre brève?
Oui! Les océans se réchauffent à un rythme alarmant. Selon un rapport de l'observatoire européen Copernicus, le rythme de réchauffement des océans a presque doublé depuis 2005. Ça fait peur quand on lit quelque chose comme ça. Les océans agissent comme un régulateur majeur du climat terrestre et des eaux plus chaudes entraînent des tempêtes tropicales et des ouragans plus forts. Et savez-vous que la fonte des glaciers peut changer les frontières entre les pays? La Suisse et l'Italie ont redessiné une partie de leurs frontières alors que les changements climatiques font fondre les glaciers qui, historiquement, marquaient la frontière entre les deux pays. En 2022, les glaciers suisses ont pulvérisé tous les records de fonte en perdant 6 % de leur volume total. C'est beaucoup, 6 % là, pour un glacier. Un bout de terre situé à la jonction des deux glaciers Helvètes s'est même récemment retrouvé à l'air libre pour la première fois depuis l'époque romaine. Alors, à qui appartient-il? T'sais? On se fait une petite chicane. Là, le scorbut est-il toujours présent de nos jours?
On parle de l'acide ascorbique, j'imagine que c'est pas la vitamine C.
Non, le scorbut.
Mais le scorbut, c'est pas la vitamine C qui est...
Oui, excuse-moi.
Je pense que ça existe encore. Hein?
Oui. Oui. Une étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne de 7 octobre dernier cite le cas d'une femme de Toronto atteinte de scorbut l'an dernier. Cette maladie qu'on associe à l'époque de la Nouvelle-France est due à une carence en vitamine C, effectivement, et serait aujourd'hui attribuable à l'insécurité alimentaire, la pauvreté et l'isolement. Quelqu'un qui se nourrit pas bien,
Je pense que le scorbut, hein, c'est une maladie des gencives.
Ah oui, tu perds tes dents. Et je pense que tu ne peux plus t'alimenter, là. Tu ne peux même plus manger parce que c'est trop douloureux.
Ah, quelle horreur.
Ah ouais, non, c'était pas beau à voir, ça.
Une petite vite, il nous reste à peine une minute.
De quoi s'est-on inspiré pour attribuer les noms des planètes?
Bonne question.
Le choix des noms de plusieurs planètes ont été influencés par les mythologies grecques et romaines. En Occident, on les associe à des déesses et à des dieux romains. Par exemple, le nom de la Terre fait écho à la déesse Tellus. Chez les Grecs, elle s'appelait Gaïa. Mercure, la plus rapide des planètes, elle fait le tour du Soleil en seulement 88 jours, doit son nom au messager le plus rapide de tous les dieux. Et quant à Saturne, elle a été appelée ainsi en hommage au dieu du temps.
Wow! Hey, on a tout fait ça les temps.
Ouais.
J'avais juste une chose qu'on a oublié de dire quand on parlait de la pomme de terre, Parmentier. Mais Parmentier, le potage Parmentier, ça vous dit quelque chose?
Ben
hein?
Oui, la classique.
La classique. Et nous, on va dans la musique.